Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Bonsoir, bien-aimés. Ce soir, je suis particulièrement dans la joie de savoir que vous êtes branchés à cette station qui proclame l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant les 60 minutes qui vont suivre, nous allons étudier les paroles d'une chanson. Mais avant d'en arriver là, permettez, chers auditeurs, auditrices, que nous apportions une correction à une erreur qui s'est glissée par inadvertance dans l'émission de dimanche dernier. Et cela, on va le faire avec notre bien-aimé, l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonsoir d'abord.
Oui, bonsoir Olivier.
Oui, la semaine dernière, une erreur s'est glissée dans l'émission de façon subtile. Et il est bon qu'on revienne sur cela pour corriger, pour que les uns et les autres soient situés par rapport à cette erreur et que la bonne expression soit utilisé dans cette émission.
On bien, est là avec bien toi. Entendu.
Très bien.
C'était au cours de l'émission, quand tu l'auras décidé. Alors, à la 13e minute, entre la 17e et la 19e seconde, lorsque j'essaie d'expliquer que, d'une manière générale, il y a un temps pour mourir, et un temps pour naître, et un temps pour mourir. Et qu'il y a eu des exceptions dans les Écritures. Mmh. En ce moment précis, dans ma tête, il y avait Enoch et il y avait
Noé.
Noé. Donc, Enoch a été enlevé et il n'a pas participé, n'a pas pris part ou n'a pas été affecté par le déluge. C'est vrai qu'il en est de même aussi pour Enoch et pour Noé. D'accord ? Et Noé a échappé au déluge, ben lui il est mort après. Donc là, à l'instant, ce à quoi je faisais allusion, c'était Enoch qui n'a pas connu la mort. Il était l'exception. Deuxième exception, c'était le prophète Élie. C'est vrai que je m'étais racheté après à la 27e minute, à la 6e seconde, où j'ai fait un récapitulatif en disant que Enoch et Élie n'ont pas connu la mort physique. D'accord, donc c'était l'erreur. L'erreur était mienne quand j'avais dit que Noé n'avait pas connu la mort. Donc c'était ça l'erreur qui s'était glissée. Et c'est important de revenir dessus pour que ce qui est dit dans l'Écriture soit ce que nous proclamons.
Exactement, mmh. Très bien. Tout est clair dès à présent dans l'esprit de nos auditeurs, de nos auditrices. Ceux qui nous suivent ici à Lomé et aussi un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en France, au Burkina Faso et bien d'autres pays, ceux qui nous suivent et qui sont fidèles à cette émission. Voilà, l'erreur a été corrigée et nous allons revenir dès à présent à notre émission de ce jour. Aujourd'hui, nous allons étudier une chanson en anglais de Don Moine intitulée « Alléluia to the Lamb » ou encore en français « Alléluia à l'agneau ». Je vous laisse avec la chanson.
Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice.
L'autre Laurent, les paroles de la chanson en anglais.
Le premier couplet de la chanson, l'original d'abord, il a dit ceci: Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all my strength. Le refrain dit ceci: Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Le deuxième couplet nous dit ceci: Lord, we stand by grace in your presence. We are cleansed by the blood of the Lamb. We are your children called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all nations will see your glory reveal and worship you. Et le refrain dit ceci: Every knee shall, le refrain après après vient: Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb, giving praise unto the Lamb, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, the Lamb of God.
La D'accord? Version française,
en français, traduit en français. Seigneur, je me tiens au milieu de la multitude de ceux qui proviennent de toutes tribus, et langues, nous sommes ton peuple, racheté par ton sang, sauvé de la mort par ton amour. Il n'y a pas de mots assez bons pour te remercier. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma louange, mais j'élèverai ma voix et je chanterai du fond de mon cœur, de toutes mes forces. Le refrain, alléluia, alléluia, alléluia à l'agneau. Alléluia, alléluia, par le sang de Christ, nous nous tenons, chaque langue, tribu, chaque peuple, chaque territoire, pour donner gloire et honneur, louange à l'agneau de Dieu. Deuxième couplet, Seigneur, nous nous tenons par la grâce, en ta présence, nous avons été purifiés par le sang de l'agneau, nous sommes tes enfants appelés par ton nom, humblement nous nous prosternons et prions, libère ta puissance pour œuvrer en nous et au travers de nous, jusqu'à ce que nous soyons transformés pour être davantage semblables à toi, alors toutes les nations verront ta gloire révélée et t'adoreront. Ensuite vient le refrain, après, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Seigneur de tous. Le refrain, alléluia, alléluia, alléluia à l'agneau, alléluia, alléluia par le sang de Christ, nous nous tenons. Chaque langue, chaque tribu, chaque peuple, chaque territoire pour te donner gloire, honneur, pour louer l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu.
Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise.
Plus à présenter. Il est très connu dans le monde chrétien. Il est même une référence en matière de gospel. En matière de gospel. Néanmoins, je vais te poser une ou deux questions sur sa personne, mieux même sur son ministère. Alors, ce monsieur-là, depuis combien d'années est-il dans ce ministère de chant?
Ça fait plus d'une trentaine d'années. Mais je rappelle qu'il s'appelle en réalité Donald James Mwen. Donc c'est le diminutif de Donald qui est Don.
Don. Okay.
Donc Don Mwen.
Okay.
D'accord. Il est né le 29 juin 1950 à Minneapolis dans l'état de Minnesota. D'accord. L'on retiendra qu'il est un auteur-compositeur américain. C'est un artiste, producteur de musique d'adoration chrétienne. Mais si vous demandez à Don Mwen ce qu'il fait dans la vie, sa réponse pourrait vous surprendre. Pourquoi? Il ne vous dira pas qu'il est un auteur-compositeur, même s'il a écrit plus de 100 chansons. Il ne vous dira pas qu'il est un conducteur de louanges, même s'il a conduit la louange.
Plusieurs fois la louange.
Oui, organiser des concerts sur tous les continents, sauf l'Antarctique, et qu'il ait enregistré de nombreux albums. Il ne vous dira pas qu'il est un homme d'affaires ou un producteur, même s'il a produit et réalisé des centaines de projets avec succès. Si vous demandez à Don Moen pourquoi il est sur cette terre, il vous dira qu'il est là comme un architecte, et Dieu l'a placé sur terre pour concevoir des chansons et permettre à ceux qui les écoutent d'être proches du Seigneur. Et donc c'est ça, lui, sa
conception.
Oui, de la vie. Et pour lui, le plus grand défi, c'est arriver à organiser sa vie de manière équilibrée, pour être à la fois, pour jouer son rôle de père, de mari, de compositeur. Et ça a toujours été comme cela pour lui. Son grand défi dans la vie. Donc quand tu as parlé de quel est le secret de son succès, c'est d'arriver à établir un ordre de priorité dans sa vie en tant que disciple de Christ, en tant que père, en tant que époux et en tant que compositeur. Pour lui, l'adoration est plus qu'une chanson. On ne perçoit pas l'adoration juste la mélodie. C'est plus qu'une chanson. Il vous dira que le plus grand adorateur, c'est Jésus. D'accord? Mais quand vous lisez les évangiles, vous n'entendrez pas émettre un son mélodieux. D'accord? Si ce n'est la dernière nuit avant qu'il ne soit arrêté, où ils ont chanté les psaumes, les psaumes des degrés, comme ça, c'était la coutume en Israël. Mais il adorait le Père. Donc vous voyez, donc son aperçu de la question, du concept même de l'adoration. D'accord, c'est l'émanation de ce qui vient de l'intérieur de nous, du cœur, de l'esprit racheté, qui nous permet de pouvoir exprimer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est quelques mots là qu'on peut rapidement dire sur lui.
Très bien. Donc Don Moen a eu à plus d'une trentaine d'années comme expérience dans ce ministère. Et je constate là que c'est un monsieur très humble, qui ne se clame pas, qui ne se réclame pas, qui ne s'attribue pas les titres. Non, tel que tu l'as dit dans
il est très effacé.
Voilà, il est très effacé. Et il est là pour servir en fait le corps de Christ. C'est pour cela qu'il est présent.
Et ce devait être le propre de tout serviteur de Dieu. Il faut que Christ croisse et que nous là, on disparaisse.
Exactement. Très bien. Auditeurs, vous savez que dans cette émission, nous commentons, nous prenons les différentes parties de la chanson et nous essayons de faire un commentaire à la loupe de la parole de Dieu. Nous allons dès à présent aller avec le premier couplet, mais avant d'y arriver, je vous laisse écouter le chant jusqu'au premier couplet.
Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue.
Laurent, on va passer à la phase commentaire de l'émission. En lisant le premier couplet, les paroles du premier couplet, je constate que ces paroles dépeignent l'image d'un saint qui se trouve dans une foule et qui s'apprête à adorer le Seigneur et qui pourtant semble manquer de mots pour l'adorer. Est-ce que j'ai fait une très bonne description de la situation?
Bien sûr.
C'est bien ça?
Bien sûr, oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Tu vois, là, ça va m'amener à jeter un regard rétrospectif sur l'essence même de l'adoration. Tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament pour montrer le caractère d'abord solennel de l'adoration. le caractère sacré de l'adoration. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez à plusieurs reprises les saints, quand le Seigneur vient, très souvent, ils se prosternent devant lui. D'accord ? Quand la présence vient, quand le Seigneur se manifeste, il se prosterne. Maintenant, Dieu, en tant que grand pédagogue, a enseigné au peuple les réalités de son monde, à lui. Quand il a montré, révélé à Moïse comment se fait l'adoration. Et, bien entendu, le tabernacle a été construit et n'importe qui ne se présente pas devant le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Une fois l'an, le souverain sacrificateur va là-bas, tandis que la multitude est dehors. D'accord ? Il y va au péril de sa vie. S'il ne s'est pas bien préparé, il risque de ne pas revenir sur ses deux pieds. Alors, donc, là, avec la nouvelle alliance, il va y avoir un revirement total. Maintenant, comme vous l'aurez constaté dans l'Ancien Testament, devant le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, vous avez l'autel des parfums. D'accord ? Là où on brûlait de l'encens, une matière odoriférante hein, qui embaumait l'atmosphère. C'est dans le livre de l'Apocalypse que l'on comprendra que c'est le symbole de la prière des saints. D'accord ? Et à la mort du Seigneur sur la croix, ce voile-là, assez épais, a été déchiré en deux. Et quand vous faites une étude dans le livre de l'Épître aux Hébreux, là, l'explication est donnée. Ça veut dire maintenant que l'accès, elle est rendue possible à tous les rachetés, mais pas au monde. À tous les saints, mais pas à ceux qui n'ont pas, qui ne participent pas à la nature de Dieu, à travers l'œuvre que Christ a accomplie. Donc, là, ici, l'auteur est en train de dire, quand j'ai accès au trône, quand j'ai accès à la présence de Dieu, je ne suis pas seul. Parce qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, sur la face de la terre, d'une manière ou d'une autre, des enfants de Dieu sont en train de parler à leur Père, sont en train de l'adorer. Maintenant, là, ce qui montre que Dieu, là, on ne peut pas le comprendre, c'est que, quel que soit le nombre de personnes qui se présentent devant lui, qui exprime, chacun vient exprimer ce qu'il a en lui, ce qu'il veut dire à Dieu, il écoute chacun individuellement. C'est parce qu'il est Dieu que c'est possible. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre d'atmosphère, quand ils viennent dans une église et tout le monde prie à la fois, on dit mais ça c'est un désordre, c'est pas un désordre. Non. Parce que Dieu traite avec nous individuellement. Même si nous sommes, en tant qu'être humain, dans une foule, d'accord ? L'aspect solitaire de notre être-là est manifeste devant lui. Donc ici, l'auteur dit, je suis là devant, le trône, bien entendu, et je suis conscient qu'il y a plein de gens qui viennent, qui ont aussi accès à cette même présence, et je manque de mots pour pouvoir m'exprimer. Vous savez, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, vous allez voir là, premièrement, quand Jean a eu cette révélation, il a vu Dieu sur le trône, seul, d'accord, en train d'être adoré. Donc, premièrement, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, là, vous allez voir, Dieu était en train d'être adoré. Et là,
s'il te plaît, Laurent, c'est quelième chapitre du
Apocalypse, chapitre 4.
Chapitre 4,
très d'accord. Bien. Okay. À partir du verset 8, les quatre êtres vivants, chacun six ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. D'accord ? Ça, c'est l'atmosphère devant le trône. Mais après, vous verrez que quand l'agneau va venir prendre le livre, Le rouleau écrit en dedans et en dehors, c'est-à-dire aujourd'hui dans le langage contemporain, on dira le recto verso. On parlera plutôt de recto verso. D'accord. Quand il prendra, parce que personne n'avait la capacité non seulement de voir et de prendre le livre, de s'approcher de Dieu, d'aller prendre le livre. Mais pourquoi il le prend? Il le prend parce que il a versé son sang. D'accord. Pour le salut de l'humanité. Et il a racheté ceux qui croient en lui par son sang, et dans le programme de Dieu, les rachetés seront feront partie d'une nouvelle nation ou d'un nouveau peuple. Un peuple de sacrificateurs, d'adorateurs, d'accord? Et à côté de ça, parce que Christ est le détenteur de l'autorité suprême, les rachetés vont régner avec lui pendant le millénium. C'est pour cela que l'Écriture dit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et c'est sur cette base-là qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas par rapport au roi qu'on a dans le monde. Ceux qui sont dans le monde-là, Christ ne va pas établir la comparaison avec des gens qui vivent dans les ténèbres, qui s'appuient sur les puissances des ténèbres pour régner. Et Christ va dire qu'il est le roi des rois. Donc c'est dans ce cas de figure-là, vous verrez que à partir de là, à partir du chapitre 5 de l'Apocalypse, vous allez voir maintenant la louange et l'adoration qui seront données au Père et à l'agneau.
On va en arriver.
Au Père et, c'est important de comprendre ces choses. Au Père et à l'agneau. Pourquoi? Il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu ne donnera sa gloire à personne. D'accord?
Oui.
L'agneau, c'est qui? On va en parler un peu plus loin quand on va évoluer. Parce que là, vous allez dans le chapitre 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui se trouve, je l'ai entendu, qui disait à celui qui est assis sur le trône, ça c'est Dieu, d'accord ? Et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » parce que cela est établi. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Donc vous allez voir que dans le protocole du ciel, les choses ne se font pas dans le désordre. Vous allez bien voir la structuration. Les quatre êtres vivants prennent le devant. Les 24 vieillards qui sont le symbole des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est pour cela que vous avez le nombre 24, 12 de l'Ancien Testament, 12 du Nouveau Testament, c'est le corps, maintenant, des croyants, des rachetés devant le trône. Mais avant qu'ils ne disent quoi que ce soit, les quatre êtres vivants, prennent le devant et eux, ils suivent par la suite. Donc, ils se procèdent et adorent. Donc, là, si vous comprenez la chose de cette façon, vous savez que vous pouvez pas, on se lève pas comme ça pour entrer dans le lieu saint des saints. On se prépare, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un, bien qu'étant chrétien, ne prend pas sa vie chrétienne au sérieux, et qu'on se jette parce qu'on connaît quelques cantiques, qu'on commence pas à chanter, tout ça là, ça c'est juste le formalisme. Vous pouvez avoir chanté et fait ça, mais ne pas être devant lui. Oui. Parce que aussi longtemps que le sang n'a pas été appliqué sur votre vie, on ne peut pas vivre dans le péché et adorer Dieu, et Dieu va recevoir notre adoration. Donc, la sanctification est importante. Donc, là, après la purification, l'adoration maintenant va se passer là devant le trône. Et c'est l'esprit humain racheté qui se trouve là. Et le Saint-Esprit maintenant nous donne les mots. C'est pour cela que l'auteur dit, il n'a pas de mots pour pouvoir dire ce qu'il ressent. Et le Saint-Esprit joue alors le rôle de celui qui vous passe le mot approprié. Et là, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quand vous arrivez là, quand les yeux spirituels s'ouvrent sur cette réalité, à un moment donné, vous ne savez plus que dire. C'est en ce moment alors que l'Esprit maintenant vous impulse et vous commencez par parler dans la langue que l'Esprit vous donne pour pouvoir vous exprimer. Oui. Malheureusement, cette réalité est en train d'être banalisée par la plupart de ceux qui sont dans, la plupart, je ne dis pas tout le monde, dans le mouvement de Pentecôte, il y a ce problème-là. Dans le mouvement de sainteté, on se contente sur la sainteté, mais on ne fait pas un pas de plus pour aller dans le sens de l'adoration en esprit et en vérité. Maintenant, ceux qui sont dans le mouvement de Pentecôte, eux, ils comprennent cela. Maintenant, ils ne mettent pas l'accent sur la sainteté de vie avant d'adorer. Donc, vous voyez, il y a tellement de religions aujourd'hui que nous devons nous réveiller.
Ce qui est adéquat, c'est de joindre les deux.
Les deux, voilà.
La sainteté, et la vie,
la Pentecôte. Voilà.
Très bien. Ok, l'autre Laurent, cela a été dit dans le premier couplet, nous sommes ton peuple racheté, je lis quelques paroles du premier couplet, nous sommes ton peuple racheté par ton sang, le sang est là, sauvé de la mort par ton amour, voilà, il n'y a pas de mots assez bon pour te remercier, il n'y a pas de mots pour t'exprimer ma louange, mais j'élèverai ma voix et chanterai du fond de mon cœur. De toutes mes forces.
Ah oui, mais tu vois, j'élèverai ma voix et chanterai. Vous allez voir que si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire, vous n'allez pas adorer de la même façon chaque fois. Puisque ça vient de la spontanéité. La spontanéité relève de l'action de l'esprit en nous. D'accord? S'il faut toujours commencer d'une certaine manière et finir d'une certaine manière, ça c'est la routine. Ce qui vient de l'esprit n'est pas routinier. D'accord? Ce qui vient de l'esprit n'est pas routiné. Donc ici, il n'a pas de mots, mais il prend sur lui de commencer. Et l'esprit va l'aider à pouvoir faire, et ce sera original. Ce ne sera pas parce qu'on connaît les verbes du premier groupe, je t'adore, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je te célèbre,
te glorifie, je t'exalte.
Nous alignons ces verbes du premier groupe, et nous pensons que parce qu'on a dit ça, que c'est ce qui importe. Quelqu'un peut ne pas connaître tous ces verbes. Mais quand il vient, il s'arrête là et puis porté par ce que l'esprit fait en lui dit, Seigneur, je t'aime. Il peut juste s'arrêter à ça. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime. Juste ça.
Et c'est profond.
Et c'est profond.
Ça touche le cœur de Dieu.
Et bien sûr. À ce niveau, on comprend alors que il y a l'élément de, on se donne, on se donne de toutes mes forces. C'est pour cela que dans Deutéronome 30, là, au verset 6, il dit, quand il va te sanctifier, tu vas aimer. Quand on aime quelqu'un, on le lui prouve par les actes et par les paroles. D'accord? De toute notre force, de toute notre pensée. D'accord? Toute notre énergie. Ici, l'auteur est en train de toutes mes forces, je veux louer le Seigneur. On ne loue pas le Seigneur dans la nonchalance. Non. C'est spontané. Et ça, c'est le propre du Saint-Esprit de nous aider et nous voyons. Dans les chapitres que nous avons lus dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez comment ça se faisait. C'est spontané. Ça se faisait.
Compris, nous voulons dès à présent aborder la partie refrain de cette chanson. C'est le cœur même de la chanson, Laurent. C'est le cœur de la chanson. L'adoration, le refrain constitue l'adoration que le compositeur apporte au Seigneur. Alors, l'autre Laurent, quelle est la teneur de ces paroles?
Bien, là, nous sommes en train de parler ici de l'adoration adressée à l'agneau. D'accord? Mais vous avez remarqué que l'auteur a dit Alléluia. Alléluia. C'est l'expression réelle, ça. Alléluia veut dire louer Yah. Le Yah, c'est encore ce que bon, certains parlent de par déformation du Yah. Ou encore Yahvé. Ou encore Yehoah. Donc, Alléluia veut dire louange à l'éternel. Maintenant, quand ici, cela s'attribue à l'agneau, vous comprenez alors que en raison de l'œuvre que l'agneau a accomplie sur la croix, il est à même de recevoir la louange, l'adoration, au même titre que le Père, celui qui est assis sur le trône. Et donc, qu'est-ce qui justifie ce que nous disons? L'auteur dit, par le sang de Christ, nous nous tenons. Frères, sœurs, ce n'est pas parce que nous savons prier que nous nous tenons devant lui. Mm-mm. Ce n'est pas parce que nous marchons dans la sainteté que nous nous tenons devant lui. Mm-mm. Ce qui justifie notre présence là, c'est le sang. C'est en vertu du sang que nous nous tenons. C'est vrai que les gens utilisent les psaumes en disant qu'il faut entrer dans les parvis de l'Éternel avec des louanges, des actions de grâce, n'est-ce pas? Il y a des gens utilisent. Mais quand vous mettez le psaume dans son contexte, vous comprendrez que Dieu ne peut pas tolérer que vous venez d'abord le louer pour venir ensuite confesser vos péchés. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire.
Bien sûr, non?
Oui, c'est ce qu'on fait souvent.
Ça veut dire que nous le louons dans la souillure. Et quand on aura fini de le louer dans la souillure, maintenant, on vient maintenant pour confesser. Non, c'est plutôt le contraire.
Comme tu le dis, ce n'est pas dans le protocole de
Dieu. Non, c'est le contraire.
Nous violons le protocole
de Dieu. Bien sûr, le sang vient d'abord. Et vous allez remarquer que le sang précède le feu. Le sang précède le feu. Donc, en tant que racheté de Christ, nous sommes conscients que c'est en vertu du sang qui a coulé au calvaire que nous avons obtenu la faveur, la grâce de nous tenir devant lui. Et ici, l'auteur, quand il dit chaque langue, chaque tribu, chaque peuple, quand il dit chaque territoire, en fait, tout ce qu'il est en train de dire est en lien avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 8, quand il est dit, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Devant l'agneau. D'accord? Tenant chacun une harpe pour la louange et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc vous voyez un peu la structuration. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ce cantique-là, dans l'éternité passée, n'a pas été chanté parce que Christ n'était pas allé à la croix et n'a pas vaincu la mort, n'a pas acquis le droit de pouvoir racheter de la terre les descendants d'Adam qui, de par la chute de leur ancêtre, étaient voués à la mort éternelle. Donc ici, il dit, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Parce que quand il prend le livre, il ouvre, ce sera le déclenchement de la colère de Dieu sur le monde impie. Vous voyez un peu? Christ, l'époux, ne peut pas déclencher la colère de Dieu sur son épouse. Donc ceux qui enseignent que l'Église sera là pour traverser la tribulation ne comprennent pas le contexte d'abord. Et quand vous prenez en compte les réalités du monde juif, l'époux ne peut pas soumettre l'épouse à des actes de guerre, de méchanceté. Non. Donc ici, il dit maintenant, car tu as été, voilà ce qui justifie, tu as été immolé en tant qu'agneau, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ça veut dire que la mort de Christ couvre toute l'humanité entière, la mort de Christ. Donc s'il y a un peuple qui n'arrive pas à accéder au salut, la faute ne sera pas attribuée à Christ, mais aux représentants de Christ. Voilà pourquoi tous les ministères qui ont élu domicile dans les capitales, nous devons aller à l'intérieur. Nous, Olivier et moi, de temps à autre, on va à l'intérieur. On fait des choses que vous ne savez pas. Tous ceux qui se spécialisent dans les capitales là, les démons des capitales que vous chassez là, il faut aller à l'intérieur du pays où les gens n'ont pas entendu parler de Christ. C'est ça l'objectif de Jésus. Il n'a pas dit à ses disciples de rester, de rester à Jérusalem. Ils ont désobéi à Actes chapitre 1, le verset 8, et Dieu a appliqué Actes chapitre 8, le verset 1. Il les a dispersés. Tous ces gens que nous avons dans nos églises qui écoutent les sermons pendant 52 semaines là, si un jour le pasteur dit, frère, sœur, ça fait plus de 5 ans que tu écoutes le message de Dieu ici, aujourd'hui là, tout le monde là, on rentre dans le bus, on va dans les villages, vous serez surpris de ce que Dieu ferait au travers de vous. C'est parce que nous ne voulons pas bouger que nous croyons que Dieu ne peut pas nous utiliser. Et c'est la raison pour laquelle vous appelez des gens un homme de Dieu puissamment oint. Comme si vous êtes faiblement oint. Quand vous vous mettez en action, vous allez voir l'esprit agir. C'est en mouvement. Allez, il a dit allez, il n'a pas dit rester. Donc là, ici, nous voyons que tout ce monde-là doit louer le Seigneur parce que il a payé le prix. Donc parce qu'il a versé son sang, il a à même de déclencher le jugement sur la terre. Et dans la foulée, Israël sera pris en compte par ce jugement, le monde impie et celui qu'on appelle la prostituée, l'église apostate, qui s'est imposée au monde entier, qui a présenté au monde quelque chose de faux, qui ne vient pas de Dieu, en combinant le mysticisme indien et le mysticisme égyptien, tout cela sous le couvert d'une sainteté de façade, de robe, et le monde pendant longtemps vécu dans ça. Donc cette église-là sera la première à recevoir le jugement de Dieu. Où qu'elle se trouve située en Europe, là, quand le jugement va s'abattre sur l'église, les gens seront alors à me dire, ah, mais c'est l'église. Oui, Dieu l'appelle la prostituée parce que Dieu n'a qu'une épouse. Christ n'est pas un polygame. Il n'a qu'une église et il viendra chercher son épouse au travers de l'enlèvement. La prostituée qui reste sur terre va subir le jugement parce qu'elle a participé à la corruption du genre humain.
Nous avons été éclairés par rapport au refrain, tout est clair. Et dès à présent, nous allons aborder la deuxième strophe de cette chanson. Alors, l'autre Laurent, les mots contenus dans le deuxième couplet décrivent, à mon avis, trois situations.
Okay.
Première situation, le sang de l'agneau a opéré ce que le sang de l'agneau plutôt a opéré comme œuvre dans nos vies.
Mm-hmm.
C'est la première situation.
Okay.
La deuxième situation que j'entrevois dans ce couplet, c'est ce que nous faisons en sa présence. Mm-hmm. Et la troisième situation est la suivante, c'est ce que nous désirons qu'il fasse comme œuvre dans nos vies.
Okay.
C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant avec attention les paroles du deuxième couplet.
Okay. D'accord.
Est-ce vrai?
Oui, mais on va essayer.
D'accord,
de...
on y va.
Bien, tu as parlé de ce que l'agneau, le sang de l'agneau
oui,
a
opéré dans nos vies.
Oui.
Quand je lis quelques paroles, quelques vers de ce couplet-là.
Mm-hmm.
Oui, nous avons été purifiés par le sang de l'agneau.
Mm-hmm.
Seigneur, nous nous tenons par la présence en ta présence, mm-hmm. par la grâce en ta présence.
Mm-hmm.
Et nous avons été purifiés par le sang de l'agneau.
Mm-hmm.
Nous sommes tes enfants appelés par ton nom.
Oui. Oui, là, à ce niveau, c'est tout à fait normal. L'auteur connaît les Écritures. Hein? Nous ne demandons pas à tous les artistes d'être des théologiens, d'être des exégètes. Mais au moins, vous devez connaître le message du salut.
Le béaba.
Le béaba du message du salut. C'est pour cela qu'on on ne peut pas tolérer que quelqu'un prenne la parole de Dieu et dise qu'il veut annoncer l'évangile du royaume et dise autre chose que ce que Christ a dit, ce que les apôtres ont dit, ce pourquoi nous sommes ce que nous sommes.
Mmh.
D'accord? L'évangile là, c'est pas les contes qu'il faut raconter aux gens. C'est ce que Christ est venu faire pour le genre humain. C'est ça le message.
Et c'est ça que donne.
Il maîtrise ça. Quand il dit, mmh. Seigneur, nous nous tenons par la grâce en ta présence. La grâce même là, quand tu te tiens devant Dieu par la grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas d'être là. Dès l'instant où tu crois dans une fraction de seconde, tu t'appuies sur quoi que ce soit de personnel comme mérite, tu es disqualifié, tu sors de là en même temps.
Ah, c'est ce que le publicain aurait fait.
Bien sûr.
Notre ami publicain, là.
Oui.
Non, parce, le pharisien,
il savait qu'il ne méritait même pas de parler à Dieu. C'est ça la posture, ça c'est l'humilité ça. Il était conscient de son état et il demandait à Dieu d'être miséricordieux, hein, de faire preuve de miséricorde à son endroit.
Alors
mais le pharisien de l'autre côté là, il a parlé de ses prouesses. D'accord, il a un CV.
Un CV vraiment riche.
Bien sûr, quand vous parlez de dîme là, ce monsieur là va vous dire, mais je paie ma dîme, je fais ceci, je jeûne, je fais... Donc ça là, ça c'est de l'activisme religieux. Or déjà, dans Isaïe, il est dit, notre justice est comme un vêtement souillé devant sa face.
Exactement.
Personne ne peut se présenter devant Christ et dire et parler en se frappant la poitrine pour dire, à cause de ce que j'ai fait, tu n'as rien fait. Tout a été fait à la croix. On te demande et on nous demande à nous tous de nous soumettre à Christ et à son esprit. Donc ici, nous nous tenons par la grâce en ta présence. Et ça, Aaron en savait quelque chose. Quand ses deux fils, Nadab et Abihu, n'ont pas compris ça là, ils n'ont pas eu le temps de demander pardon. D'accord? Et là, il dit, nous avons été purifiés par le sang de l'agneau. Frères et sœurs, notre adoration sera dénuée de toute sa valeur si nous négligeons la purification par le sang de l'agneau. Ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle à vivre dans le péché et quand on aura fini de revenir comme si c'est un jeu auquel nous nous livrons. Je me souviens, j'étais parti prêcher quelque part, prêcher un message de l'évangile et tout. Et quand les gens ont prié avec faveur et quand le responsable est venu, il vient faire une introduction dans sa prière disant, Dieu, tu sais que la poule ne peut pas refuser de retourner au dépotoir. Oh. Dans ma tête, je me suis dit, le monsieur, il vient juste de détruire le message dans la vie des gens. Et donc, la conclusion, c'est quoi? Comme nous sommes comme la poule, on va vivre dans le péché et on reviendra chaque fois. C'est parce que les apôtres ont enseigné. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre du péché. C'est ce que l'Écriture dit.
D'accord.
Donc quand je lis par exemple Tite chapitre 2, verset 14, qui dit que Christ s'est donné lui-même pour nous. Nous qui? L'Église. Afin de nous racheter de toute iniquité. Ça veut dire que si je dis que Christ m'a racheté de toute iniquité et que je vis dans le péché, je contredis les Écritures. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple particulier. Comme Israël était particulier sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, un peuple particulier. Et ce qui fait la particularité foncière du peuple de Dieu, c'est le fait d'avoir été purifié par le sang. Purifié par lui, par son sang bien entendu, et zélé pour de bonnes œuvres. C'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux dira, efforçons-nous maintenant d'entrer dans le repos de Dieu, parce que là, on est libéré de la puissance et de la tyrannie du péché, et le diable n'a donc plus de droit légal et juridique sur la vie d'un saint, quand il ne voit plus le péché dans sa vie. D'accord? Et donc là, à partir de ce moment, nous pourrons maintenant nous présenter devant le trône de la grâce avec assurance. Ça, c'est le premier aspect. Tu as dit ce que nous faisons en sa présence.
Voilà.
D'accord? Là, dans la chanson, il dit, humblement,
oui.
C'est ça?
Oui.
Nous nous prosternons et prions.
Oui.
Tu vois, quand on parle de prosternation, il faut aller dans l'Ancien Testament et vous allez voir ça. Il y a une autre religion qui a copié, a fait du copier-coller. D'accord? Les genuflexions, là, c'est dans le judaïsme que c'était né. Et d'autres religions l'ont copié. Parce que là, quand vous allez voir, il y a des moments où Salomon va lever les mains, quand il aura fini maintenant, il va se prosterner, le peuple va se prosterner. Donc c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle en hébreu le shachar. Le shachar, c'est le fait de te plier le genou, la face contre la terre. Et c'est ce que Élie a fait sur la montagne. Sur le mont Carmel, quand il priait pour que la pluie tombe là. Vous allez voir, le texte est clair.
Wow.
Il s'est mis à genoux. Et il s'est prosterné. N'oubliez pas, Élie, c'est le prophète de Dieu. Et en tant que prophète, aujourd'hui on peut dire signe prophète, c'est ça non? Ça dit qu'il est titulaire dans son domaine. Et il avait les yeux spirituels ouverts. Et il savait qu'en ce moment précis, il ne peut pas regarder de face l'Éternel qui veut activer la pluie. Donc il se prosterne face contre terre pour dire, je me fasse devant toi. Accomplis ce que tu as dit. Parce que tu m'as dit, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la terre. Donc vous voyez un peu, donc ici l'auteur dit, là, nous nous prosternons. Et si on retourne dans Apocalypse 4, là vous allez, 4 et 5, nous apprenons par la parole et par l'esprit. Vous allez voir comment ça se fait au ciel et nous l'appliquons ici D'accord?
Troisième donc aspect. C'est
oui.
On peut continuer. Vas-y.
Oui. Oui, ça c'est le signe de l'humiliation, de l'humilité autant pour moi. Mmh. De l'humilité, nous nous prosternons devant qui? Le Seigneur.
Oui.
Et donc là, en ce moment, il n'y a pas de grand jeu. C'est moi là qui. Non. Il n'y a pas de l'autre là. Non, c'est le plus petit parmi nous. Mm-mm. En ce moment, tout le monde s'efface. Et nous donnons la gloire à celui qui est digne de recevoir la gloire. C'est pour cela que quand vous lisez Apocalypse 4, Apocalypse 5, vous allez voir ces mots-là utilisés lorsque les habitants du ciel se prosternent devant le Seigneur.
La troisième situation, notre Laurent, ce que nous désirons qu'il fasse comme œuvre dans nos vies. Je l'ai constaté dans ce couplet. Mm-hmm. Libère ta puissance pour œuvrer en nous et au travers de nous jusqu'à ce que nous soyons transformés pour être davantage semblable à toi.
Et là, quand vous lisez ça là, vous allez vous souvenir de Paul. Pourquoi? Il a su ce pourquoi nous allons là. Il a su ce que l'Esprit vient faire en nous. Mmh. Au-delà du parler en langue, au-delà du prophétie de chaque dimanche là, il y a une œuvre que l'Esprit de Dieu est en train d'accomplir en nous si nous nous soumettons à lui. C'est nous rendre conformes à l'image de Christ. C'est ça l'œuvre. C'est ce qui a été accompli au point que, à Antioche, les gens se sont rendus compte. Mais ces messieurs-là, on les connaissait avant. C'était comme nous, c'était des païens. Mmh. Mais aujourd'hui, là, même s'ils se moquaient d'eux, dans leur critique, ils étaient en train de révéler une vérité. C'est que ces gens ont une vie transformée. Et ils ressemblaient à Christ. Pas d'un point de vue physique, puisqu'à l'époque, personne n'avait l'image de Jésus-Christ. Mais sa vie, son caractère commençait par se manifester, ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit commençait par se manifester. Et ici, l'apôtre Paul va dire, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 4, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur là, c'est la partie la plus profonde de notre être, la partie rachetée. D'être puissamment fortifié par son esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que c'est la présence de Christ en nous qui nous donne la révélation sur l'amour de Dieu. Et il parle de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau humain pour comprendre l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est pas révélation parce que la connaissance spirituelle vient par révélation, alors que la connaissance naturelle vient par ajout d'informations. Tu vois un peu? Donc ici, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Lord, we stand by grace in your presence.
Alléluia à l'agneau, alléluia à tout des limbes, est le chant qui est étudié dans cette émission Études sur Cantique de ce jour. On va vite passer au petit troisième couplet. Là, je vois là, l'autre Laurent, que c'est la suite logique de la fin de la deuxième strophe.
Bien entendu.
Tout genou fléchira, tout l'en confessera que tu es le Seigneur de tous.
Tu vois, cette révélation que Jean avait, Paul l'avait eue avant lui. Dans Philippiens chapitre 2, là, Paul va parler de la préexistence de Christ quand il dit Christ existant en forme de Dieu. D'accord? Jésus-Christ existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est à ce niveau que ceux qui parlent de l'unitarisme sont confus. Parce que ce texte est en train de dire, celui que nous appelons Christ là, avant qu'il ne vienne sur la terre, il n'avait pas le nom Christ. C'est la parole. D'accord? Et donc ici, Quand il est venu sur terre, il n'a pas trouvé une occasion de dire, ah, maintenant que je suis sur terre, là, je vais dire à tout le monde, écoutez, c'est moi qui vous ai créé, hein. Et je... Non, non, non. Puisque le péché d'Adam et Ève ont été le péché contre la parole, le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. Donc, il faut que la parole vienne corriger le désordre qu'Adam et Ève ont introduit dans la création. C'est pour cela qu'il a pris un corps humain pour pouvoir régler le problème à travers ce corps humain-là. Donc, ici, clairement, il est dit que Christ il s'est révélé comme un être humain, d'accord, conforme en tout point de choses. Quand on le voit, on voit juste un être humain. Et l'Écriture a dit qu'il a été obéissant même jusqu'à la mort, la plus terrible des morts, la mort de la croix. Et sur cette base-là, il est maintenant dit que le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi ? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans le grec, Jésus-Christ est Hokurios. Et là, ça, c'est en rapport avec sa divinité. Et c'est la fin maintenant dit à la gloire de Dieu, le Père. Donc, quand nous louons Jésus, ça, par ricochet, cela atteint le Père. D'accord? Donc là, ce texte nous explique clairement que ceux qu'il a rachetés ploieront le genou devant lui et confesseront sa seigneurie. Et pour tout cela, puisqu'il a parlé de toute langue, tout peuple, toute nation, que le Christ est le Seigneur de tous.
Très bien.
D'accord?
Mm-hmm. C'est clair. On va terminer cette émission avec cette dernière question. Mm-hmm. La chanson se termine par le refrain. Mm-hmm. Et à la fin... Don Moine insiste, il dit Jésus est l'agneau de Dieu.
Il l'a entendu.
Jésus est l'agneau de Dieu.
Oui, celui dont l'Ancien Testament parlait sous forme voilée, jusqu'à ce que Jean, le prophète Jean, hein, que nous appelons couramment Jean-Baptiste, qui vienne dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette parole maintenant s'est accomplie. Et il est dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Et le médiateur c'est qui? C'est Christ Jésus homme. Donc c'est en tant que Christ, c'est en tant que homme, fils de l'homme glorifié qu'il est actuellement au ciel. Donc si vous comprenez les Écritures, d'accord? C'est en tant que homme là qu'il a été, il est maintenant glorifié. Voilà pourquoi l'Écriture nous dira après, quand il va terminer, il remettra le royaume au Père. Beaucoup, quand ils lisent ça, ils sont confus. Il va remettre le royaume au Père parce qu'il a accompli l'œuvre du rachat de l'humanité en tant que fils de l'homme. D'accord? Ah, donc, c'est de cela qu'il est question quand l'auteur dit l'agneau en question, c'est Jésus. Ce n'est personne d'autre. C'est pour cela que nous ne devons en aucun cas attribuer une once de gloire à un être humain. Jamais. Et quand quelqu'un commence par vous élever à cause de ce que Christ est en train de faire au travers de vous, ayez l'humilité de l'arrêter pour lui dire, ne me crée pas de problème avec Dieu. Parce que vous ne faites pas attention, c'est Christ seul qui reçoit la gloire et le Père est satisfait. Si un être humain vous attribue la gloire de ce que Christ fait, vous risquez de tomber sous le jugement du diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a donné des conseils qu'on ne mette pas le jeune Jean dans le ministère parce qu'ils ne sont pas encore mûrs pour l'œuvre du ministère.
Merci l'autre Laurent. Merci également à vous auditeurs, auditrices qui nous avez suivis sur cette antenne, sur cette station ici à Lomé ou ailleurs de par le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, c'est ce que l'Esprit devrait communiquer, qui a été communiqué cet après-midi. Et si le Seigneur tarde à revenir, on va se retrouver le dimanche prochain, même heure, mais cette fois-ci avec un autre cantique. Je vous laisse avec Alléluia tout de l'homme.
Stand in the midst of a multitude of those from every tribe.